Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. J'aurai dans quelques instants le plaisir de recevoir à distance une personnalité réputée pour son franc-parler. Comme chaque dimanche, je vous le rappelle également, vous pouvez nous écouter en direct sur Sud Radio, mais aussi nous voir en live sur Facebook via la page officielle de Sud Radio ou encore en replay depuis la playlist des Incorrectibles sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est donc parti pour un nouvel épisode des Incorrectibles. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, mon invité ce dimanche est aujourd'hui écrivain, mais il est ancien ministre. Il fut secrétaire d'État à la culture, député national, européen notamment, et président du parti politique souverainiste Mouvement pour la France. Également chef d'entreprise, fervent amoureux de la France et de sa culture. Il a créé entre autres le célèbre spectacle du Puy du Fou, mais aussi la prestigieuse course du Vendée Globe. Retiré de la vie politique active, il n'en reste pas moins présent dans la sphère publique à travers ses nombreux ouvrages, dont le dernier, Les Gaulois réfractaires demande des comptes au Nouveau Monde, qui vient de paraître aux éditions Fayard, s'annonce comme un best-seller, il caracole en tête des ventes. Il est présenté comme la chronique glaçante des aveuglements face au coronavirus en France. L'occasion donc de dresser avec cet invité un bilan de cette crise et de passer en revue avec lui l'actualité chargée du moment. Philippe Devilliers, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, votre dernier ouvrage est un pamphlet acerbe contre le Nouveau Monde promis par Emmanuel Macron et une critique sévère de la façon dont son gouvernement a géré la crise du Covid-19. Le titre même fait référence à des propos polémiques de notre président. C'était lors d'un déplacement au Danemark. Je le cite, « Gaulois réfractaires au changement ». Emmanuel Macron avait été contraint de faire son mea culpa face aux réactions indignées que ceci avait entraînées. Vous n'hésitez pas ensuite à dévoiler le contenu d'échanges privés que vous avez eu avec lui et sa femme. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander, ce livre, c'est parce qu'il vous a déçu alors que vous pensiez qu'il vous écoutait, Philippe Devilliers ?
Ce livre, c'est parce que les Gaulois réfractaires, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, qui regardaient les Français comme des gens indociles et indisciplinés, les Gaulois réfractaires, en fait, ils ont accepté d'une manière stupéfiante d'être enfermés, confinés pendant 2 mois. Recroquevillés comme des troglodytes dans une falaise de craie. Et quand ils sont sortis, ils ont demandé des comptes, ils demandent des comptes, non seulement sur ce virus-là, mais les virus à venir. Par exemple, le virus islamo-gauchiste dont je parle à la fin de mon livre, d'une manière qui est un peu de la préscience, puisque je ne savais pas ce qui allait se passer avec l'affaire Traoré et l'affaire de Dijon. Mais qu'est-ce que ça veut dire demander des comptes ? Ça veut dire, voilà, vous nous avez vendu le nouveau monde, c'est-à-dire un monde débarrassé des souverainetés, des frontières, de l'indépendance, de l'État, un monde qui serait un village global unifié avec le primat de l'économique sur le politique, les fameuses chaînes de valeur globale, l'interconnexion, l'interdépendance, la religion des flux. Et bien ce monde-là, il vient de mourir et il nous a rendus malades. Et donc, quand Emmanuel Macron, le 13 avril dernier, je réponds à votre question, a dit aux Français, en les regardant dans les yeux, comme dirait Giscard, il a regardé la France au fond des yeux, et il a dit, il va falloir se réinventer, moi le premier. Et je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit, ben, pour vous réinventer, je vais vous écrire un petit manuel de réinvention. Et ce manuel, c'est ce livre.
Est-ce que le président s'est manifesté suite à la publication de cet ouvrage, Philippe Devilliers ?
Non, pas directement, mais en fait, à travers son allocution de dimanche dernier, il a utilisé des mots que je préconise dans mon livre, par exemple le mot indépendance, par exemple le mot relocalisation, par exemple le mot souveraineté, par exemple le mot séparatisme, etc. Donc en réalité, la chose n'y est pas encore. Les mots, ils sont un peu.
On peut quand même imaginer que ça ne lui ait pas forcément plu de voir ses confidences relatées dans un livre grand public. Et malgré les mesures sanitaires, il a quand même autorisé la réouverture anticipée du Puy du Fou, ce qui lui avait lieu également des accusations. Alors paradoxalement, de favoritisme envers votre personne. De votre côté, vous n'avez pas manqué de le remercier dans un chaleureux tweet. C'était en date du 21 mai. Merci à Emmanuel Macron de son message chaleureux. Merci d'avoir transféré le dossier du Puy du Fou au Conseil de Défense. Le Puy du Fou va revivre. Le Puy du Fou vivra. On a un peu de mal à comprendre votre relation ces « je t'aime, moi non plus » entre vous deux, quoi.
Non, mais c'est très simple. Il est venu au Puy du Fou avec son épouse en août 2016 et il m'a dit en partant « Vous pouvez me considérer comme un Puy Follet », ainsi qu'on appelle les gens du Puy du Fou. Et depuis, il n'a jamais cessé de manifester ses attentions quand il y a un problème qui nous concerne, parce qu'il considère le Puy du Fou comme un fleuron français, comme d'ailleurs beaucoup de Français. Et donc là, il est imprenable sur ce terrain-là. Et donc, je lui ai demandé de sauver le Puy du Fou, il a sauvé le Puy du Fou. Mais il y a autre chose, il y a la France. Et en venant en 2016, il savait très bien à qui s'adressait, c'est-à-dire à quelqu'un qui est souverainiste. Or, pour lui, un souverainiste, c'est quelqu'un qui a chopé le virus populiste, la lèpre populiste, il appelait ça. Donc, on a deux conversations à chaque fois. Une, on est d'accord, sauver le Puy du Fou, faire rayonner le Puy du Fou, il a emmené avec lui en Chine Nicolas Duvillier, mon fils, le président du Puy du Fou. Il l'a présenté au président chinois, etc. Donc, pour le Puy du Fou, il est impeccable. Mais je lui demande de sauver le Puy du Fou et de sauver la France, et là, c'est moins bien pour le deuxième sujet. Et en fait, pour vous répondre complètement, il serait inélégant de prêter à Emmanuel Macron l'intention d'acheter, par ses attentions à l'égard du Puy du Fou, d'acheter le silence d'un esprit libre.
Oui, en l'occurrence, alors il achète peut-être pas le silence d'un esprit libre, mais en revanche, il fait réagir, parce que je ne sais pas si vous avez suivi ces réactions de personnalités de certaines d'entre elles du monde artistique et culturel, comme récemment le rappeur Dayam, Akhenaton, ou encore les acteurs Fabrice Luchini et Ariane Ascaride. Elles se sont indignées, justement, face à cette décision, alors que la fermeture de théâtre ou de festival a été maintenue. Vous avez lu leur SOS publié dans l'Obs, et si oui, qu'en pensez-vous ?
Alors, ce que je pense, c'est qu'ils sont mal informés. Ah. Parce que le 2 juin dernier, au Conseil de défense, la réouverture du Puy du Fou a entraîné avec elle, d'ailleurs beaucoup nous ont remerciés, a entraîné la réouverture de très nombreux sites culturels, 500 environ. Et donc, en fait, si le Puy du Fou, si on n'était pas passé par le Conseil de défense et s'il n'y avait pas eu la décision d'Emmanuel Macron concernant le Puy du Fou, je pense qu'on n'aurait pas ouvert de l'été, nous et d'autres, et les autres. Et donc, en fait, c'est le contraire. Ils disent le contraire de ce qui s'est passé. Grâce à nous, tout s'est dégelé, en quelque sorte. Tout s'est décongelé. Voilà. Si on n'avait pas forcé le passage à la machette contre Édouard Philippe, je pense que tous les sites culturels seraient restés.
C'est pas un exemple des contradictions d'Emmanuel Macron et de sa politique du « en même temps »
tout l'été comme les stades.
Oui, parce que justement, il y en a beaucoup qui cette double personnalité, Macron-Deville, Emmanuel Deschamps, Dr Macron et Mister Emmanuel. Vous pensez qu'ils font un plan Marshall pour la culture, selon vous, comme l'affirme d'ailleurs le comédien Denis Podalydès ?
Ben oui, parce que la situation est très grave. En fait, et ce que j'évoque dans mon livre, c'est la fameuse attestation. L'attestation dérogatoire pour sortir de chez soi. Vous vous souvenez, Éric Morillot ?
Bien sûr.
Il y avait 7 cases. On pouvait sortir son chien. Bon. Mais on pouvait aller à l'hypermarché, mais il manquait la 8e case. Et ça m'a rappelé les 7 piliers de la sagesse, les 7 chèvres de M. Seguin, les 7 péchés capitaux, les 7 sauts de l'Apocalypse. Et là, l'histoire retiendra les 7 cases d'Edouard Philippe. Il manquait la 8e case. Et la 8e case, c'est tout ce qui touche aux nécessités de la vie de l'esprit. Aller enterrer un mort, aller dans une librairie, aller dans un lieu culturel, aller dans un site culturel, aller dans une forêt, etc. Tout ce qui touche aux ferveurs, à l'ardeur de la vie, à ce qui fait la vie. L'attestation dérogatoire, en fait, elle était fondée sur le principe du biopouvoir, comme dirait Michel Foucault, c'est-à-dire la survie. Il n'y a pas que survie. La politique, c'est pas la survie. La politique, c'est la vie affective, la vie économique, la vie créative, la vie culturelle, la vie spirituelle, etc. Cette attestation dérogatoire, elle est symptomatique d'une société matérialiste qui ignore ce qu'on appelle la culture.
Philippe Devilliers, vous restez avec nous. Nous sommes ensemble pendant une heure jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. On fait une courte pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, toujours en direct avec en duplex par vidéo pour ceux qui peuvent nous voir sur les réseaux sociaux, mais bien sûr aussi en direct sur Sud Radio. Mon invité, Philippe Devilliers, à l'occasion de la sortie aux éditions Fayard de son dernier ouvrage, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Et a priori, ça s'annonce comme un carton d'édition en matière de vente, à en croire les chiffres donc de vente sur Amazon. Alors on va en parler de ce livre, bien sûr, plus en détail jusqu'à la fin de cette émission. Juste un mot, Philippe Devilliers. Pourquoi avoir choisi de coucher vos idées sur papier plutôt que de vous entretenir en privé avec le président autour de ces sujets et le conseiller, comme il semble vous plaire de le faire?
Ben, ça revient à votre première question, c'est parce que je suis déçu et que je veux prendre à témoin le peuple français de ce que je lui dis en privé, qu'il semble écouter, mais ça ne suffit pas. Je vous donne un exemple, il m'a dit le 17 mai dernier, Philippe, tout vous donne raison. Je lui accorde une qualité, Emmanuel Macron, c'est qu'il écoute quand on est critique et il accepte la critique. Mais le problème,
il
c'est qu'après, il écoute Cohn-Bendit ou
il écoute le dernier qui le conseille, quoi, en gros.
Ben, j'ai l'impression, oui, parce que quand il dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison, l'idée de la souveraineté est une idée… est une idée nécessaire, une idée opportune. On aurait dû le faire depuis longtemps. Ah, très bien, mais alors, bon, il faut le faire, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je prends à témoin le peuple français en disant au peuple français, voilà, en fait, ce drame que nous venons de vivre a remis au cœur de l'État le carré magique de la survie. Le premier coin du carré magique, c'est la frontière. Le deuxième coin, c'est la souveraineté. Le troisième coin, c'est le local, le circuit court, plutôt que le libre-échangisme mondialiste sauvage. Et le quatrième coin, c'est la famille, la première sécurité sociale. Et donc, je dis à Emmanuel Macron, en prenant à témoin mes compatriotes, maintenant, faites-le. Faites-le, parce que vous êtes arrivé au pouvoir en nous faisant croire, en faisant croire aux Français qui vous ont cru que le nouveau monde allait nous faire entrer dans une ère de prospérité, de paix perpétuelle. Et puis, on a tous chopé le virus. Donc, maintenant, vous faites demi-tour. Faites un vrai demi-tour. Vous savez, le cœur de nos conversations avec Emmanuel Macron, c'est pas un exercice mutuel de vanité mutuelle. Hein, c'est le cœur de la discussion, c'est la question suivante. Est-ce que on adapte la France à la mondialisation? C'est ce qu'elle a voulu faire dans la première partie de son quinquennat. Ou est-ce qu'on fait le contraire? Est-ce qu'on adapte la mondialisation à la France? C'est ce qu'il semble vouloir faire pour la deuxième partie de son quinquennat. Bon, eh bien, moi, je dis, bon, ben, il faut y aller maintenant. Il faut adapter la mondialisation à la France et non l'inverse. Par exemple, arrêter d'aller demander aux Chinois le paracétamol fabriqué chez nous, recréer une industrie de souveraineté, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Philippe Devilliers, justement, avant d'en parler encore plus en détail de ce livre, vous voyez vraiment comme un porte-parole de cette France en colère qui a la chance de pouvoir s'exprimer alors que d'autres sont muselés?
Moi, je suis retiré sur mon Aventin. De temps en temps, je descends me mêler à la conversation civique sur le forum. Mais les gens, pourquoi ils me lisent, pourquoi ils m'écoutent, pourquoi ils m'entendent? Parce qu'ils savent que... à travers l'œuvre du Puy du Fou et à travers mes idées, celles que j'ai toujours défendues, il y a une gratuité. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas de mandat à demander, je demande rien, je ne demande pas à être le porte-parole. De toute façon, les Gaulois réfractaires n'ont pas de porte-parole. Tu sais, De Gaulle disait cette vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. Donc, voilà, moi, j'ai pas d'autre ambition que de dire.
C'est catégorique, vous n'avez plus d'ambition politique, Philippe Devilliers. Vous n'envisagez pas de nouveau de revenir sur l'arène politique de premier plan, d'être candidat en 2022, ça c'est certain.
Non, je ne l'envisage pas pour une raison simple, c'est que j'ai un ministère là, je vous parle. C'est beaucoup mieux, c'est un magistère ministère, je suis ministre du Puy du Fou, ça me va très bien.
Non mais si les conditions l'exigeaient, on ne sait jamais, hein, puisqu'on voit tellement de choses se passer auxquelles on ne s'attendait pas. En matière de recours, vous pourriez être présent ou pas si on... Vous appelez...
Ah ben non, mais si les institutions ne fonctionnent plus, que c'est le grand désordre, que c'est la paillage généralisé, et que en plus, face à la colonisation barbare qui est devant nous, il y a le séparatisme partout, il faudra qu'il y ait des gens qui se lèvent.
Et là, ça pourrait être vous.
Non, mais je pensais éveiller plutôt à mon frère.
Ah, le général.
Mais non, mais il y a des gens comme ça qui ne sont plus dans la vie publique et qui peuvent se lever le jour venu. Et moi avec, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je
on pourrait envisager un tandem Philippe de Villiers et Pierre de Villiers.
Ah, bah, oui, je serais son chef d'état-major. On s'entend très bien, on s'aime beaucoup et on parle de la... Et vous savez, quand nous, on est une famille, quand on se voit, on commente le dernier match de tennis parce que il y a une compétition. Et ensuite, on parle de la France, voilà. Et quand on parle de la France, on est triste, alors, on est inquiet. On est inquiet parce que la France est peut-être en train de disparaître. Donc, pour répondre à votre question, on ne laissera pas la France disparaître.
Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, pardon d'être un peu polémique, mais on recevait ici, il y a quelques semaines, Michel Onfray, qui avait des mots très durs, hein, d'ailleurs, à l'égard de votre frère, qui avait rejoint, je crois, un cabinet de conseil américain et qui disait qu'on ne fait pas ça quand on a été à la tête de telles responsabilités auparavant. Vous, qui allez sans doute collaborer à sa revue Front Populaire, vous auriez envie de lui répondre ?
Non, mais j'aime beaucoup Michel Onfray, donc je n'ai pas du tout envie d'entretenir une polémique avec lui. Michel Onfray est un homme qui pense juste, qui met la souveraineté au premier plan de son combat, de son analyse. Et bon, quoi qu'il puisse dire par ailleurs, je lui sais gré de son courage. C'est quelqu'un de courageux et qui voit juste, et je suis très honoré qui m'a demandé de participer à sa revue qui réunit les souverainistes des deux rives, comme dirait Chevènement.
Qui sort mardi d'ailleurs, hein, dans les kiosques.
Oui.
Alors, Philippe de Villiers, on va venir à cette, évidemment, affaire, enfin plus que affaire, hein, puisque c'est vraiment la polémique de ces mois et peut-être malheureusement des mois encore à venir, longtemps, donc de cette crise sanitaire. Vous racontez, vous évoquez cette formule, hein, dans votre livre, hein, que vous aviez, qui avait fait rire à une époque les salles, quand toutes les barrières sanitaires seront tombées et qu'il y aura une grippe à New Delhi, elle arrivera dans le Berry. Vous racontez la métaphore du Titanic pour illustrer la crise actuelle et l'effondrement économique. On a rien anticipé, selon vous, malgré les avertissements, c'est cela qu'il faut comprendre ?
Ben oui, je pense que, en fait, on ne pouvait pas prévoir la pandémie, mais on pouvait la préparer. Par exemple, les masques, les tests, les appareils respiratoires, les lits d'hôpitaux, etc. Pourquoi ? Parce que on savait, le gouvernement savait, à travers, par exemple, les livres blancs de la défense nationale, 2008, 2013, 2017, on savait que il y avait des risques d'épidémie et que la disparition des frontières, cette espèce de monde unifié, le village global, Globalia, avec une Europe soumise au principe du soldat Schengen, c'est-à-dire l'espace sans frontières, ça pouvait se terminer par la frontière sans espace. Bon, on savait tout ça. Et les gens qui sont au pouvoir n'écoutaient pas la sagesse populaire qui dit quand un pays n'a plus de frontières extérieures, il risque d'installer la frontière domestique. C'est ce qui s'est passé. Quand un pays n'a plus de souveraineté frontalière, sanitaire, économique, il risque d'être obligé de demander ses médicaments au bout du monde. Quand un pays ne garantit plus le principe de l'indépendance, il est sous protectorat. Quand un pays trouve intelligent de supprimer son industrie, de délocaliser son industrie au bout du monde, eh bien, à travers les chaînes de valeur globale, il est appauvri et il est sans moyen de puissance. Vous voyez, l'Allemagne a 20% de son industrie dans le PIB de l'Allemagne, 20%. Et nous, 10%. Donc, on n'a plus d'industrie. Donc, on n'a plus d'industrie pharmaceutique, mais plus d'industrie stratégique. Voilà. Et ce qui est quand même rassurant, c'est que le bon sens revient. On parle à nouveau d'industrie stratégique. On parle à nouveau d'autonomie stratégique. Mais là où en même temps d'Emmanuel Macron est déroutant, c'est qu'il veut deux souverainetés à la fois, la souveraineté nationale et la souveraineté européenne. On ne peut pas être à moitié souverain. Une femme n'est pas à moitié enceinte. On est souverain ou on ne l'est pas. La souveraineté européenne, c'est ce que je dis dans mon livre, pardon d'être un peu direct, mais la souveraineté européenne, c'est la souveraineté sans peuple. Et la souveraineté sans peuple, c'est l'amour à distance de la branlette.
Ah oui, d'accord, ça a le mérite d'être clair. Philippe de Villiers, justement, vous repassez dans votre livre, bien sûr, en revue l'historique de cette crise en France, hein, vous rappelez l'incohérence totale du maintien du premier tour des municipales, Emmanuel Macron et sa femme qui sortent au théâtre alors que tous les signaux sont au rouge. Diriez-vous qu'il y a eu un petit, voire un gros problème d'ego dans l'attitude du président qui a d'abord préféré ne pas voir la réalité en face alors que les autres pays commençaient à prendre des mesures? Ce confinement, vous-même, vous le décrivez dans votre livre et vous le critiquez, vous dites qu'on n'aurait pas dû confiner tout le pays. Qu'est-ce qui aurait dû être mise en place selon vous?
D'abord, je réponds. Il y a deux questions dans votre question. La première, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pendant deux mois, il y a eu le déni.
Ce premier tour, on aurait dû l'annuler, pardon.
Comment?
On aurait dû l'annuler, ce premier tour, selon vous?
Évidemment, puisque d'après ce qu'a expliqué Agnès Buzyn, elle a dit dès le 10 janvier, j'ai prévenu l'Élysée qu'on allait vers un tsunami. Alors, si on allait vers un tsunami, dès le 10 janvier, évidemment, il fallait se préparer. Pendant deux mois, ça a été le déni sur le thème « le virus ne viendra pas chez nous ». C'est Wuhan, mais il n'y a pas de problème, ils ont pris les mesures, voilà. On ne ferme pas les frontières, on ne fait rien pendant deux mois. Donc, le virus ne viendra pas chez nous. Après, il y a la grande menterie, on n'a pas besoin. Les frontières, les masques et les tests ne servent à rien. Et après, on a le confinement généralisé qui fut une erreur. Il aurait fallu un confinement ciblé géographiquement et ciblé médicalement sur les groupes à risque, mais pas un confinement généralisé tel que celui qu'on a fait et qui a mis le pays à genoux durablement.
Philippe de Villiers, vous êtes notre invité jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio. Restez avec nous. On revient dans un instant à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Eh bien, on va vous en faire parler justement de ces nouveaux comptes que vous demandez.
Sud Radio, Les Incorrectibles, Éric Morillo.
13h passées de bientôt 30 minutes, nous sommes en direct sur Sud Radio ce dimanche avec notre invité Philippe de Villiers à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage donc qui caracole parmi les livres donc en matière de vente sur Amazon notamment. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde, ça vient de paraître aux éditions Fayard. Alors justement, vous parliez il y a un instant, Philippe de Villiers, d'Agnès Buzyn, alors les principaux acteurs de La République En Marche, ils passent hein, devant votre livre de Sibeth Ndiaye, donc Agnès Buzyn, Olivier Véran, Édouard Philippe, vous souligner leur incompétence. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord celle du chef de l'État qu'on pourrait remettre en cause, hein, puisque c'est quand même lui qui est censé les gouverner, même si Édouard Philippe est Premier ministre. Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, Philippe de Villiers, a les compétences requises pour le poste?
Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, les générations politiques qui se sont succédées ont fait preuve d'incompétence, d'inculture, d'un manque total de clairvoyance depuis le Maastricht, en fait, en nous faisant croire qu'on allait entrer dans un monde débarrassé des frontières, des souverainetés, des nations, des États, et que le primat de l'économique sur le politique allait permettre par l'interconnexion générale d'apporter la prospérité. C'était un monde qui était censé nous débarrasser de la guerre, de la mort, des idées, des religions, de l'histoire, de tout ce qui fait la politique. Et ces gens-là, en fait, depuis Giscard, ils ont accueilli une immigration au service du grand patronat galopante, avec des gens aujourd'hui qui n'ont plus aucune référence, ils n'ont plus de racines, ils n'ont pas les leurs, ils ont perdu les leurs et ils n'ont pas les nôtres, et ils ne veulent pas des nôtres. La délocalisation systématique, la prolétarisation de la classe moyenne et la puissance de la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Occident qui a voulu le libre-échangisme mondial avec le traité de Marrakech. L'Organisation commerciale du monde, l'OMC, que j'appelle l'Organisation commerciale du monde. C'est les États-Unis et l'Europe. Ils ont cru qu'ils allaient jouer gagnant. Et en fait, aujourd'hui, c'est la Chine qui gagne. c'est la Chine qui devient non seulement l'usine du monde entier, mais la puissance du monde, les routes de la soie, etc. Regardez, les Italiens se sont tournés vers les Chinois, etc. Donc, nous, on est berniques. Donc, c'est quand vous me dites, est-ce que Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus large. C'est tous ceux qui ont inscrit leur pas, mais aussi tous les intellectuels, toutes les élites.
En parlant des élites, justement, le professeur Raoult, vous le considérez comme partie intégrante de cette élite ou pas?
Alors, oui, s'il s'agit de dire que les élites, c'est les gens qui sont visionnaires. On applique la grille, le peuple, les élites.
Vous le considérez comme un visionnaire, le professeur Raoult?
Alors, je vais vous dire, le professeur Raoult, alors moi, je ne suis pas un médecin, hein, donc je ne peux pas porter de jugement sur la chloroquine. Je dis simplement ceci. D'abord, c'est un infectiologue réputé mondialement. C'est incontestable. Ensuite, il a eu des résultats. Alors, lui dit c'est la chloroquine. Les autres disent non, c'est pas la chloroquine. Alors, imaginons que c'est la lavande ou le pastis. Voilà. Moi, d'ailleurs, quand je bois mon pastis le soir, je dis je bois ma chloroquine. Bon. Alors, si c'est pas la chloroquine, c'est le pastis marseillais. Bon, très bien. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que sont braqués sur lui les orgues de Staline, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, regardez le Lancet, une revue mondiale qui s'acharne, dont on découvre qu'ensuite c'est une baudruche qui se dégonfle, mais cet acharnement, si vous voulez, du sanitairement correct me laisse penser que cet homme dérange, et je ne sais pas pourquoi il dérange, mais certainement que d'autres savent. En tout cas, lui a l'air de savoir, et les autres ont l'air de savoir aussi. Alors, moi, je l'appelle le druide, parce que il est là avec sa faucille d'or dans son tilleul sacré, il donne sa potion, et le druide a l'air d'embêter les Romains. Donc, moi, j'aime bien Raoult, j'ai de l'admiration pour lui, j'espère le rencontrer, j'espère même l'accueillir ici au Puy du Fou. C'est un personnage, quand on l'écoute, quand on l'entend, il est comme un trois-mâts du Vendée Globe avec la quille profonde, il ne se laisse pas démonter.
Et justement, alors pour reparler justement de ces gens qui ne se laissent pas démonter, hein, vous aussi, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous avez choqué, hein, en traitant récemment, c'était sur l'antenne de BFM TV, le gouvernement d'Emmanuel Macron de pétochard qui, je vous cite, ridiculise l'État et ridiculise même le président de la République. Vous révélez par ailleurs qu'Emmanuel Macron vous aurait confié qu'Édouard Philippe ne voulait pas déconfiner plus tôt car il gérait son risque pénal. Là encore, je vous cite. Alors, ce sont des accusations quand même très graves, ça, Philippe de Villiers. Qui sont les coupables dans cette crise et est-ce qu'il faut les punir, selon vous, comme d'ailleurs certains le demandent?
Alors, votre question est importante, effectivement, et judicieuse. Il y a les fautes individuelles qui relèvent de la justice. Seules les fautes individuelles relèvent de la justice. Les fautes individuelles intentionnelles, non-assistance des personnes en danger, la mise en cause de la vie d'autrui, etc. Mais je dis bien les fautes individuelles. Il n'y a pas de justice collective chez nous. On n'est pas en Union soviétique. Après, il y a la responsabilité politique. Les décisions politiques qui entraînent une responsabilité politique. Moi, je ne suis pas dans la traque. C'est un livre qui est précis, chirurgical, mais je ne suis pas dans la traque. Ce n'est pas un règlement de compte. Je dis simplement qu'effectivement, par exemple, sur le confinement, abordons la question du confinement. Pourquoi ils ont confiné tout le pays? Alors, pour trois raisons. La première, c'est qu'ils avaient sous les yeux une modélisation, comme on dit, de l'Imperial College de Londres, qui disait il va y avoir 500 000 morts en France. Bon, ils se sont plantés. Mais voilà, c'est les scientifiques. Et comme ils avaient décidé de donner le pouvoir aux scientifiques pour ne pas avoir d'emmerde, l'Imperial College. La deuxième raison, c'est que s'il y a 500 000 morts en France, ils se sont dit, oh là là, on n'a pas les lits. Et on va se trouver dans la situation de l'Italie avec le 20h, et au 20h, on aura les images des morts dans les couloirs. Parce qu'on n'a pas la capacité pour absorber un tel coup. Et ils appellent ça lisser la courbe. Ils le disent, on a lissé la courbe. Et la troisième raison, c'est le risque pénal. C'est-à-dire qu'en fait, Le président de la République, lui, n'a pas de risque pénal puisqu'il a l'immunité présidentielle. Le Premier ministre a le risque pénal et ils sont en fait traumatisés par l'affaire du sang contaminé. Et ce que je dis, c'est que le précautionnisme installé par Chirac dans la Constitution, dans le principe de précaution, et la judiciarisation de la société prennent en tenaille le personnel politique. C'est pas forcément de leur faute, c'est comme ça, c'est une évolution. Mais cette évolution, elle est dommageable, parce que du coup, on ne décide plus qu'en fonction de sa protection judiciaire. C'est ce qui s'est passé pour le confinement. On n'aurait pas, s'il n'y avait pas eu cette obsession du risque pénal, je pense qu'on aurait fait un confinement intelligent, comme on a fait le déconfinement. On a fait un déconfinement graduel, ciblé géographiquement, hein, vous vous souvenez, la carte rouge, la carte verte, les 100 kilomètres. On aurait dû faire un confinement de la même manière. Pourquoi ? Parce que en fait, on parle de la deuxième vague, Éric Morillo. Mais la deuxième vague, je peux vous dire, ici, aux Herbiers, pourtant on est un pays, on a très peu de chômage, mais c'est une catastrophe. Parce que la deuxième vague, c'est toute l'économie du gagne-pain. Je ne parle pas de l'économie virtuelle, financiarisée, mondialisée, connectée, mais l'économie du gagne-pain, l'économie des indépendants, l'économie des petits artisans, des petits commerçants, etc., et des salariés des petites entreprises, tout ça, c'est au tapis, hein, et pour longtemps. Donc, ils ont pris quand même une énorme responsabilité. Donc, je ne me substitue pas à la justice, je ne suis pas justicier, je dis simplement que leur responsabilité, elle est énorme et je la démontre dans mon livre. Et d'ailleurs, si ce livre a autant de succès, puisqu'il est premier à livrer de l'eau, là, je viens de l'apprendre à l'instant à la pause, c'est bien que les gens cherchent des explications. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde.
Alors justement, en parlant de ces Gaulois réfractaires, donc je reviens sur ce carré magique, hein, que vous citiez tout à l'heure, de frontières, souveraineté, locale et famille. Vous avez dit la France ne pourra se réinventer qu'en revenant aux fondamentaux donc, de cette souveraineté nationale. Alors j'aimerais bien comprendre la différence qu'il y a pour vous entre souverainisme et nationalisme et quelle est franchement votre différence d'appréciation avec celle que peut faire Marine Le Pen d'un côté ou par exemple Marion Maréchal de l'autre.
Alors, la première chose, c'est que, étant sur mon Aventin, je ne regarde pas au microscope ou à la longue vue ce que font les uns et les autres. Je constate aujourd'hui que tout le monde part de la souveraineté. Vous savez à quoi on constate une victoire intellectuelle ? C'est quand le camp d'en face
se réapproprie vos idées.
Votre lexique.
Donc vous diriez que Marine Le Pen a pillé votre lexique ?
Non, je dis que j'élargis votre zoom, là, parce que vous cherchez à le resserrer. Mais je l'élargis pour vous dire que Bruno Le Maire, par exemple, ne peut plus faire une intervention sans parler du souverainisme. Tout le monde parle du souverainisme. Et Emmanuel Macron, qui n'est pas suspect d'être le péniste, parle du souverainisme. Alors, vous avez posé une question très importante. Souverainisme, nationalisme. Alors, je vais vous dire quelle est la différence. C'est que être souverain, la souveraineté, les constitutionnalistes disent, c'est la compétence de la compétence. Je suis souverain, je suis libre. Mais les souverainetés s'accordent les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle l'ordre international. Alors que le nationalisme conduit au repli. Donc, moi, je ne veux pas d'une France repliée au sens du nationalisme réducteur. On ferme les frontières. Non, on contrôle les frontières. On s'accorde au niveau européen, comme c'était le cas dans le traité de Rome, d'ailleurs, avant le tournant de Maastricht. Mais on est maître de ses choix stratégiques, des choix militaires, diplomatiques, culturels. On est maître, voilà. On est maître à bord. Mais ce n'est pas parce qu'on est maître à bord qu'on se ferme au monde extérieur. La mondialisation, elle existe depuis les Phéniciens. Elle existera demain. Moi, je suis pour un monde de nations. J'avais dit, dans le Vendée Globe, on a imposé les sept casiers, les sept compartiments étanches, pour éviter la jurisprudence du Titanic, puisqu'il y a eu une lame de glace. Et comme il n'y avait pas de compartiment étanche, un seul compartiment, le bateau a coulé. Eh bien, les nations sont les compartiments étanches de la mondialisation. Et donc, je ne suis pas contre l'idée de la mondialisation, le monde des échanges, Mais les nations sont... Si par exemple, on avait eu des nations avec des frontières, on aurait évité la propagation de l'épidémie comme on l'a eu. Voilà, c'est tout.
Donc, contrairement à ce que disait François Mitterrand, l'Europe, elle n'est définitivement pas notre avenir, hein, selon vous.
Alors, si, je pense que l'Europe est notre avenir, tout autant que la France.
Une Europe des nations.
Oui, exactement. Une union d'États. Mais je vais vous donner un exemple. Hein. On devrait pouvoir faire ensemble l'Airbus du médicament, par exemple. Donc, une Europe sanitaire. Ensuite, la lutte contre le terrorisme. Ensuite, l'Europe numérique. Oui. Ce qui a bien marché en Europe, hein, c'est Airbus. Pourquoi? C'était des gouvernements qui s'entendaient, c'était des États ou des entreprises. Et on a abattu une chose essentielle en Europe, c'était la préférence européenne, la préférence communautaire. La préférence communautaire, ça veut dire, si je dois consommer du miel, je consomme d'abord le miel produit en Europe avant de consommer le miel d'Afrique du Sud.
Bah ouais, mais ça, c'est la préférence nationale du Rassemblement national, non? Est-ce que c'est vous qui pillez pas
dans l'excès? Non, je vous parle de la... vous faites une petite obsession,
oui.
Là. non, je vous parle de la préférence européenne, là. Et vous me parlez de la préférence nationale. Mais vous me mettez tout à fait à l'aise. L'autre jour, il y avait un débat, Jadot contre Bruno Le Maire. Et Jadot disait, il faudrait quand même qu'on puisse, nous, permettre à nos entreprises locales d'accéder au marché public alors que c'est interdit par Bruxelles. Alors, Bruno Le Maire lui dit, moi, je suis d'accord avec vous, il faut la préférence locale. Et Léa Salamé ajoute, et pourquoi pas nationale? Et en avant, tout le monde était pour la préférence nationale. Donc, moi, je suis, oui, la préférence nationale, ça veut dire que, oui, il faut privilégier sur les territoires français des gens qui ont choisi la France, qui sont français, plutôt que des étrangers qui reçoivent des prestations auxquelles ils ne devraient pas avoir droit. Voilà, ça s'appelle la préférence nationale. Et je vais plus loin que ça. C'est demander à ceux qui sont sur le territoire national d'aimer la France. S'ils n'aiment pas la France, il faut qu'ils s'en aillent.
Philippe Devilliers, notre invité jusqu'à 14h. Encore un quart d'heure à passer avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On revient dans un instant sur Sud Radio en direct.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
De recours sur Sud Radio pour cette dernière partie des Incorrectibles. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h à l'occasion donc de la sortie de cet ouvrage. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Ça paraît aux éditions Fayard et c'est signé Philippe Devilliers qui n'a toujours pas la langue dans sa poche. Et on le constate encore une fois aujourd'hui. Alors dans votre conclusion justement, Philippe Devilliers, vous écrivez, je vous cite, la première urgence, on va parler un peu plus de cette actualité plus récente, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Or pour le moment, elle semble bien mise à mal hein, par les dernières manifestations, alors celle des policiers, celle du personnel soignant, celle des sans-papiers, des antiracistes et puis encore les violences à Dijon. Comment est-ce que vous analysez cette situation, Philippe Devilliers?
Le problème le plus grave, c'est le problème
créé Castaner. Par... C'est Castaner le problème pour vous?
Alors c'est... Oui, c'est la non-réponse au problème dont je voulais parler, c'est l'immigration galopante. En fait, on a accueilli chez nous, depuis Giscard, en nous disant l'immigration, c'est une chance pour la France, on a accueilli des vagues d'immigration qui se sont installées dans des enclaves, on appelait ça les territoires perdus de la République, maintenant ce sont des enclaves étrangères. Dans ces enclaves, il y a des militants du racialisme, ça c'est une évolution très grave, qui ensuite viennent sur la place publique avec l'affaire Traoré et qui désignent, qui montrent du doigt les policiers en disant ce sont des racistes et qui montrent la France en disant on ne veut pas de cette civilisation.
Vous pensez qu'il y a du racisme dans la police justement, Philippe Devilliers?
Non, je pense qu'il peut y avoir dans tous les corps sociaux des brebis galeuses. Il peut y avoir des mauvais médecins aussi, etc. Il peut y avoir des mauvais épiciers, il peut y avoir des, etc. Il peut y avoir des mauvais garagistes, etc. Mais je pense que c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, les policiers, on leur demande d'aller dans des quartiers très difficiles, se font insulter, se font lyncher. Ils sont accueillis au mortier. Regardez les fusils d'assaut et les kalachnikovs à Dijon. Quand même, ça a marqué beaucoup de gens. Et on leur demande en fait de ne plus aller au casse-pipe parce que pour pas faire de provocation, Castaner. Bon. Il y a une phrase de Castaner qui est fantastique. C'est l'émotion dépasse les règles juridiques. Alors donc pour les stades, par exemple, de foot qui vont ouvrir le 11 juillet, là, il y a une jauge à 5000, très sévère, hein, pour les spectateurs. Par contre, il n'y a pas de jauge pour Traoré. Voyez. Donc, en fait, le Castaner, qui est représentatif, Belloubet, etc., tous, enfin, ce sont des pétochards. Voyez. Et d'ailleurs, dans l'affaire du confinement, c'était pareil. En fait, des gouvernants qui ont peur de leur peuple, qui ont peur de tout ce qui peut se passer, ils n'exercent plus l'autorité. Voilà. Et donc, il faut rétablir l'autorité de l'État. Il faut faire deux choses. Il faut dire à ceux qui méprisent notre civilisation, qui voudraient obtenir de nous la honte de soi, qui voudraient qu'on fasse la génuflexion devant eux, la colonisation barbare, dehors.
Vous étiez contre dehors. Ce geste symbolique, hein, de faire un genou, de poser un genou à terre en hommage à George Floyd.
Ah oui, moi je fais la génuflexion devant ma mère, la France, vous voyez, en disant merci de m'avoir donné tout ce que vous m'avez donné. C'est des générations et des générations de Français qui nous ont tout donné. Moi, ce qui me touche, je vais vous dire, c'est ce matin, je voyais des jeunes au Puy du Fou qui sont d'origine étrangère et qui me disaient, on souffre, nous, parce qu'on est des Français d'amour. C'est merveilleux comme expression. Il y a des Français de désir à côté des Français de souche qui souffrent, justement, de la confusion avec ceux qui voudraient nous démolir, nous détruire, nous déconstruire. Et nos élites, que ce soit les médecins légistes, les historiens, qui ont la trouille de cette nouvelle immigration, colonisation, ces élites sont coupables. Et en face de nous, on a des colonies qui avancent et qui ont l'intention, eh bien, de nous mettre à terre, de mettre le pays, de lui faire peur. Voilà. Et ce qui s'est passé à Dijon, c'est un truc stupéfiant quand même. Vous vous rendez compte? Alors, les journalistes disaient, il y a la communauté tchétchène, la communauté maghrébine. Alors, ah bon, la communauté nationale, elle est où là-dedans? Qu'est-ce que c'est que c'est? On est dans le communautarisme. Ensuite, il y a des armes qui se baladent. On tire en l'air. On est près de la guerre civile, là. Et ensuite, on nous explique que Castaner et Nunez ont dit, attention, faut les cerner, mais on les arrêtera après, mais faut leur pas de provocation, etc.
Et vous pensez qu'il faut qu'il démissionne, c'est ça? Castaner, c'est lui le seul responsable, c'est la politique finalement qu'il mène qui n'est pas bonne, donc vous appelez à sa démission.
Alors, je vais même plus loin que ça. C'est une honte. Ce matin, il a fait une interview dans le Parisien où il dit « j'aime la police, je soutiens la police ». Il se fout de notre gueule, non? Non mais attendez, les policiers, vous savez ce qui s'est passé au Mans hier? Il y a des policiers qui ont été tabassés, ils ont reculé, ils se sont barrés, ils se sont enfuis. Voilà, on en est là aujourd'hui parce que ils savent que si jamais ils répondent, ils peuvent aller en justice. Vous voyez, ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie. Donc, en fait, l'autorité de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'autorité régalienne. Ça veut dire faire respecter la justice, la police, les institutions, et puis faire respecter la France. C'est-à-dire que, je vous répète, Éric Moriot, la France est notre mère. Si on la considère comme une marâtre, parce que c'est une mère d'adoption, donc si c'est une mère d'adoption, c'est notre mère encore. Et donc, si on n'aime pas notre mère, on peut partir, il faut partir, mais il ne faut pas mettre la pagaille chez nous. Alors, ça ne peut plus durer. Là, il y a des enclaves étrangères, je pèse mes mots, il y a des enclaves étrangères par centaines où la police ne peut plus pénétrer, non plus que les médecins, non plus que les pompiers. Tout le monde a peur. Voilà. Et dans ces enclaves, il y a des coutumes, il y a des mœurs, il y a les réseaux de la drogue, il y a tout ça, tout est organisé, c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. Et un jour, Hollande a dit « je crains la partition, on n'en est plus là ». Et Collomb a ajouté « ah, attention, que le côte à côte pourrait devenir un face-à-face, on n'en est plus là ». Aujourd'hui, c'est plus que la sécession, c'est la colonisation, c'est-à-dire ils vont nous mettre dehors, chez nous.
Et alors, vous révélez quelque chose d'assez incroyable dans votre livre, je vous cite, vous écrivez que Macron a, je cite encore, donc profité de la crise sanitaire pour publier discrètement un décret qui organise l'enseignement de la langue arabe à l'école primaire. Cet enseignement sera assuré par des professeurs tunisiens choisis par le gouvernement tunisien. Le symbole est fort, il s'agit de détacher de la France des bouts de France, c'est un appel à la sécession. Donc c'est bien ça ce que vous dites.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont profité de la grande épreuve pour passer des textes qui vont dans le sens du communautarisme. Et donc, je ne crois pas à Emmanuel Macron très sincère lorsqu'il dit il faut revenir à la souveraineté, parce que revenir à la souveraineté, ça veut dire imposer en France la culture française et naturellement la langue française. Enseigner l'arabe dans les banlieues à des petits étrangers qui ne veulent pas devenir français, c'est les pousser à la sécession. C'est ce qui est en train de se faire et c'est très grave pour le pays. Mais vous savez, vous parliez de la présidentielle, la prochaine présidentielle, elle va se jouer là-dessus. Là, ce qui s'est passé, M. Moyau, là, avec l'affaire Traoré, le mouvement racialiste et Dijon et Tchétchène, c'est un bouleversement pour beaucoup de Français que moi je rencontre ici partout. C'est un bouleversement, c'est un basculement. C'est un basculement. Les gens sont en train de se rendre compte que le pays roule à l'abîme. Et moi, je ne laisserai pas faire non plus que beaucoup d'autres. Vous voyez ?
Et s'il y a un duel Macron-Le Pen, vous choisissez qui, Philippe de Villiers ?
Ah non, mais je ne joue pas ça, moi. Je ne joue pas au pari hippique. Je suis pas du tout un
non, mais
du
qui est le moins pire selon vous, parce qu'on se dirige vers ce duel de nouveau, hein, quoi que vous disiez.
Non, mais je suis pas en train de faire un dîner de tête. Attendez, là, vous, moi je m'appelle Philippe de Villiers, donc vous voyez, entre Philippe de Villiers et Macron, c'est Philippe de Villiers. Voilà, c'est tout.
Et entre Philippe de Villiers.
Entre mes idées, quand je parle avec Emmanuel Macron, il me remercie souvent de lui dire des choses. Voilà, donc moi, je peux parler que de moi, je ne peux pas parler des autres.
Non, mais s'il n'y a pas Philippe de Villiers pour la France, c'est entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se lever, on ne sait pas. Peut-être, vous savez, regardez, Macron, 2 ans avant l'élection présidentielle, personne ne l'envisageait. Je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas envie d'habiller mon combat d'idées. De préférence partisane, c'est pas le moment d'incarner ces idées. Peut-être ça viendra, mais pour l'instant, je constate que les idées que nous avions défendues avec des gens comme Éric Zemmour, comme Michel Onfray et comme d'autres, et à gauche, Événement, etc., Pasqua, Séguin, tout ça. Eh bien, ces idées-là, qui étaient considérées comme des idées désuètes, comme des idées ringardes, sont les idées qui sont à l'ordre du jour. Donc, veillons à ce que on construise un monde d'après à partir de nos idées et pas à partir du nouveau monde. En fait, c'est le retour de l'ancien monde. C'est quoi l'ancien monde ? C'est les nations protectrices, c'est l'autorité régalienne, c'est l'indépendance stratégique, c'est l'idée des communautés d'appartenance, de filiation, des attachements vitaux. Si on revient à ça, on relève la France.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, d'avoir été notre invité ce dimanche dans Les Incorrectibles en direct. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde chez Fayard. C'est donc votre dernier ouvrage qui, vous le disiez, est numéro 1 des ventes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Quentin Cabanis à la réalisation, à Nicolas Philippi au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je vous le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous donc des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h avec le professeur Christian Perron. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. Bonne fin de journée.